Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
Vous voulez que je revienne demain ?
RTL midi.
Le 12-30, Vincent Parisot, Christelle Robière.
Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour RTL midi, c'est-à-dire une heure et demie d'infos. À partir de maintenant, avec vous, grâce à vous, avec vos témoignages. Bonjour Christelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et donc on vous attend au 32-10. Prenez la parole, rebondissez sur l'actualité ou sur l'enquête d'RTL consacrée, vous l'avez peut-être entendu ce matin, à l'une des nouveautés de la rentrée scolaire, l'enseignement moral et civique à l'école, au collège et au lycée. Car il y a polémique et le SNALC, l'un des syndicats d'enseignants, monte au front en estimant par exemple que ce programme risque en fait de renforcer les discriminations sexistes qu'il est censé dénoncer. Il enfoncerait aussi quelques portes ouvertes en y mettant particulièrement le temps. Alors cet enseignement moral et civique est-il vraiment utile ? A-t-il été suffisamment bien préparé ? Les profs ont-ils été assez associés ? Ce sera le débat d'RTL midi avec le vice-président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges, Jean-Rémy Girard. Et puis il sera ensuite votre invité, donc vous pouvez réagir, témoigner, nous donner votre avis au 3210.
Quand les kinés donnent un tour de rein à la Cour des comptes, l'institution pointe l'explosion des dépenses des masseurs et celles des soins infirmiers, près de 10 milliards d'euros en 2014. Un autotest du sida, il débarque en pharmacie et permet en 30 minutes maxi de savoir si on est ou pas séropositif. Une petite révolution à manier avec précaution. Pour en parler avec vous à 13h30, notre spécialiste médical Odile Pouget. Il y aura des frappes en Syrie, François Hollande s'y engage. Le débat parlementaire aura lieu cet après-midi et les Républicains auront bien du mal à parler d'une seule voix. Dans RTL Midi aussi, nous irons à Rennes au procès de cette mère qui a tué son enfant lourdement handicapé. Elle voulait abréger ses souffrances. La grand-mère a témoigné ce matin. La bande à Parker, Superstar, 26 000 spectateurs, c'est inédit à Villeneuve-d'Ascq où les Bleus rencontrent la Lettonie en quart de finale de l'Euro de basket. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour.
Avec quelques éclaircies.
Oui, quelques éclaircies. Finalement, bonne surprise cet après-midi. Alors écoutez bien, nord de la Bretagne, Normandie, Île-de-France, Picardie, finalement, l'après-midi sera agréable. On ne devrait pas avoir d'averse et conserver les éclaircies. Alors tout ça entre des passages nuageux et perturbés. Il y en aura par exemple sur l'extrême nord du côté du Nord-Pas-de-Calais. Et puis il y en aura également un peu plus au sud, sur le sud de la Bretagne, la façade atlantique, les Pays de la Loire, la région Poitou-Charentes, le centre, encore toutes les régions du nord-est où là ça restera plus nuageux avec quelques averses. Et puis dans le sud, comme prévu, des Pyrénées aux Alpes ou encore à la Méditerranée. Là on aura un peu plus de soleil, sauf autour du golfe du Lion, on aura encore des entrées maritimes. Le vent soufflera partout, jusqu'à 60 km/h dans les terres, 80 km/h encore près de la Manche. Et puis les température un peu fraîche, 17 à 19 degrés dans la moitié nord, 21 à 25 dans le sud et toujours 26 à 29 en Corse.
Les Vénards.
Ah oui.
Et la question du jour sur RTL.fr, on vous demande si Yannick Noah doit être le capitaine, le prochain capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Ben vous n'êtes pas chaud, hein, à l'évidence pour l'instant sur RTL.fr. Vous nous répondez non à 80%. Seulement 13% de oui, mais ça peut changer. Hein, donc vous pouvez voter RTL.fr. Puis surtout, vous pouvez nous donner votre avis de vive voix au 3210.
RTL midi.
La sécurité sociale malade de son déficit chronique. La Cour des comptes épingle une fois de plus un retour à l'équilibre qui s'éloigne encore. L'assurance maladie reste la branche la plus déficitaire avec 6,5 milliards d'euros l'an dernier. Le système de soins n'est pas assez efficace face au vieillissement de la population. Et le rapport s'intéresse de près aux infirmiers et aux kinés. Leur activité représente à elle seule près de 10 milliards d'euros. Marie-Bénédicte Allaire, le nombre d'infirmiers libéraux a même doublé en 14 ans.
Alors, c'est pas anormal. Hein. La population vieillit, les maladies chroniques augmentent, on a donc plus besoin d'eux, mais ça n'explique pas tout. Le problème vient aussi d'un déséquilibre dans la répartition de ces praticiens libéraux sur le territoire. Deux exemples éclairants, pour 100 000 habitants, il y a 57 infirmiers dans les Yvelines, 419 en Corse, 47 kinés en Seine-Saint-Denis, 180 dans l'Hérault, avec, là où ils sont les plus nombreux, des dépassements d'honoraires. Pour Philippe Tisserand, du syndicat national infirmier, ça s'explique par leur mode de rémunération, il est au micro RTL de Jules Pecnard.
Ça fait longtemps que les syndicats appellent une réforme en profondeur de ce mode de rémunération de paiement par demi-heure de soins. C'est un système pervers qui entraîne les infirmières à surcoter puisqu'on les paie à un tarif horaire inférieur au SMIC.
Mais la Cour des comptes relève aussi que dans les départements où ils sont plus nombreux, le nombre d'actes par patient est plus important. Elle note que pour une rééducation du genou, la moyenne nationale est de 32 actes, mais elle dépasse systématiquement les 35 sur le littoral méditerranéen et on atteint parfois
fois 51 séances de kiné.
Alors, vous êtes infirmière libérale, vous êtes kiné. Bah, dites-nous si vous êtes trop nombreux, si vous pratiquez vous aussi ces dépassements d'honoraires. On vous attend au 3210.
Et puisqu'on parle de santé, l'autotest du sida arrive aujourd'hui en pharmacie. L'idée, c'est de toucher enfin les personnes qui échappent au dépistage. 30 000 personnes sont porteuses du VIH sans le savoir. Alors, il s'agit d'un kit qui donne un résultat au bout d'une demi-heure maxi. Le professeur Rosenbaum, le co-découvreur du virus, était ce matin l'invité d'Yves Calvi sur RTL et il reste circonspect.
Est-ce que le test rapide est une réponse, je dirais, suffisamment significative en termes global, en termes de population? Je ne suis pas sûr, parce que se retrouver seul devant le test ne donne pas une assurance que les bonnes mesures, c'est-à-dire la prise en charge médicale derrière, sera assurée. Si les gens hésitent à faire un test pour des raisons, par exemple, de confidentialité,
oui, bien sûr,
ils auront les mêmes hésitations pour aller au-devant des personnels de santé pour se faire suivre. Aujourd'hui, quand on est dépisté, on est traité automatiquement. Et c'est ça qui est important. Et je ne suis pas sûr que l'idée d'augmenter l'autonomie des gens en leur proposant un autotest, le risque, il est de créer plus d'émotions que de rendre service en termes de santé publique.
Voilà, et vous dites-nous au 3210 si vous feriez ce test, et puis si vous êtes pharmacien, médecin, quel genre de conseils donneriez-vous pour accompagner les patients? Vous aurez la parole après 13h.
Voilà, on pourrait écrire ça à la craie au tableau noir, enseignement moral et civique. Bon, c'est l'une des nouveautés de cette rentrée, avec, on vous en a déjà parlé, hein, ces cours qui vont du CP à la terminale. Un matériel pédagogique a été fourni aux profs, ça veut dire qu'on sait maintenant ce qui va être enseigné, comment cela va être enseigné, et on y trouve, c'est vrai, des exemples assez étonnants, voire surréalistes, comme par exemple les discriminations sexistes pour les élèves de 3e. Anaïs Bouissou.
Oui, un cours décrit en détail par les services du ministère. Première demi-heure, les élèves nomment des différences entre hommes et femmes. Alors on imagine les préjugés, la femme à la maison, l'homme au travail, les uns plus intelligents que les autres, plus musclés, etc.
Ça, ce sont ce que disent les élèves, hein.
Seconde partie du cours, c'est aux profs de parler et de donner des exemples d'hommes avec des caractéristiques féminines et de femmes avec des caractéristiques masculines. Exemple, Billy Elliot. Il fait de la danse, caractéristique féminine. Corinne Diacre entraîne l'équipe de foot de Clermont-Ferrand. Foot, donc, caractéristique masculine. Résultat, au lieu de déconstruire les idées reçues, l'élève rentre chez lui avec un tableau des différences entre hommes et femmes. Écoutez Delphine, elle enseigne l'histoire géo en 3e.
Je suis scotchée. Excusez-moi, je découvre que donc une femme au pouvoir a des caractéristiques masculines. Je vais être très à l'aise, moi, pour faire mon cours avec ça. D'abord, je trouve ça complètement idiot. Et je ne vois pas très bien ce que les élèves vont en retenir. Qu'est-ce que je fais marquer dans le cahier, moi?
De son côté, l'association Oser le féminisme regrette de ne pas avoir été consultée sur ce cours. Lutter contre le sexisme, oui, mais pas en recréant des préjugés. Maria Libert, la porte-parole d'Oser le féminisme.
Ça part d'une très bonne intention, mais en tout cas la façon dont c'est présenté sur la fiche que moi j'ai eue sous les yeux, le cours s'achève sur un tableau, effectivement, des caractéristiques supposément féminines et masculines. Ça m'étonne beaucoup que ce soit la fin de cette séquence sur les discriminations sexistes que de dire voilà, les hommes sont comme ci et les femmes sont comme cela.
Mais au ministère de l'Éducation nationale, on explique qu'il n'y a pas lieu de polémiquer et que l'objectif reste bien de lutter contre le sexisme.
Merci Anaïs Bouissou. On va en parler et en reparler évidemment avec vous au 3210. On vous attend si vous êtes parent, si vous êtes enseignant. Vous pourrez d'ailleurs en parler tout à l'heure avec Jean-Rémy Girard, le vice-président du SNALC, hein, le syndicat des enseignants des collèges et des lycées. Auparavant, il sera notre invité à 12h50. Nous aussi, on a des questions à lui poser.
Et une cinquantaine de tracteurs autour du parc des expositions de Rennes. Les agriculteurs manifestent à l'occasion de l'ouverture du Salon international de l'élevage. Des prix, pas des primes, disent-ils. Ils contestent la politique menée par la FNSEA.
Dans un instant, on ira à Rennes pour le procès de cette mère qui plaide l'acte d'amour après avoir tué sa fille lourdement handicapée. A tout de suite.
RTL Midi. Christelle Robière et Vincent Parisot jusqu'à 14h.
La cour d'assises d'Ille-et-Vilaine rendra son verdict ce soir sur le procès de deux souffrances, celle d'une petite fille handicapée physique et mentale et celle de sa mère qui a fini par la tuer. L'enfant avait 8 ans. Laurence, la mère, parle d'un acte d'amour. Et ce matin, Patrice Gabart, la grand-mère de la petite Méline, est venue à la barre.
Comme sa fille, Simone Carnero, 79 ans, ne peut pas retenir ses larmes et sa voix s'étrangle à l'évocation de ce terrible matin du 23 août 2010, quand elle découvre sa petite fille Méline allongée sur son lit, toute belle dans sa petite robe et ses jambes froides qu'elle recouvre immédiatement d'une couette. C'est aussi sa fille Laurence qui erre comme un spectre, s'accroche au chambranle de la porte et répète plusieurs fois « Maman, je me suis ratée ». À l'arrivée des pompiers, la grand-mère reconnaît leur avoir dit « Laissez-les partir toutes les deux », mais elle ne se souvient plus. Contrairement à ses premières déclarations, avoir ouvert une lettre découverte la veille au soir sur sa table de chevet, une enveloppe Kraft sur laquelle est écrit « Maman, pardonne-moi ». L'avocat général dénonce cette contradiction et insiste pour savoir si elle connaissait ou non les intentions de sa fille. Mais maître Dupont-Moretti botte immédiatement en touche et martèle, c'est infiniment subsidiaire et cela reste le secret d'une femme de 80 ans. Une femme qui admet à propos du geste de sa fille, évidemment on n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est un geste d'amour.
Patrice Gabarro, palais de justice de Rennes pour RTL.
L'Europe s'est couverte de honte. La phrase est forte. Le vice-chancelier allemand ne mâche pas ses mots vis-à-vis des 28 qui, vous le savez, n'ont pas trouvé d'accord hier sur la mise en place de quotas pour accueillir les réfugiés. Comme prévu, la Hongrie a fermé ses frontières avec la Serbie. Et ce matin encore, on a appris que 22 personnes s'étaient noyées après le naufrage d'un bateau au large de la Turquie qui tentait de rallier l'île grecque de Kos. Mais pour prendre le problème à la racine, François Hollande a annoncé qu'il y aurait bien des frappes aériennes françaises en Syrie et pas seulement des vols de reconnaissance. Alors Christophe Decroix, dites-nous quelles pourraient être les cibles.
Alors, on va frapper des cibles fixes, ce qu'on appelle des frappes délibérées, c'est-à-dire des attaques planifiées. Les missions de reconnaissance actuelles, et il y en a eu de nouvelles, permettent de constituer une banque de données. C'est elles qui permettent de décider, par exemple, quel centre de commandement on frappe, en faisant attention d'avoir le moins de dégâts collatéraux possibles. On sait que Daesh se cache au milieu des populations civiles. Ça peut être aussi des centres d'entraînement, des dépôts d'armes ou des usines de fabrication de mines antipersonnelles. Autre cible possible, des raffineries. Daesh détient la quasi-totalité des puits de pétrole en Syrie et les raffineries lui permettent d'alimenter ses véhicules. Comme on n'a pas de drones dans la région, a priori pas de frappe d'opportunité, c'est-à-dire des frappes sur des cibles mobiles qui se présentent sans que ce soit prévu à l'avance. S'il y en a, ce sera plutôt sur renseignements américains avec des Mirages, partis de Jordanie cette fois-ci, ou des Rafales qui seraient en train de faire des missions de renseignement sur la zone. Mais alors, il faudrait que cette cible imprévue soit plus importante que la mission initiale.
Christophe Decroix, et un débat aura lieu cet après-midi au Parlement, jour de rentrée autour de ces frappes. Nicolas Sarkozy s'est rendu devant son groupe ce matin, le groupe des Républicains, pour tenter de parler d'une seule voix. Mais les ambitions se font sentir sur ce sujet-là aussi, Dominique Tenza.
Oui, c'est vrai, cette matinée en est une nouvelle illustration. Alors, l'ancien président, lui, a été clair devant les députés républicains. Oui, pour une intervention au sol en Syrie, mais sans la présence de troupes françaises. Et sur ce point, eh bien, tout le monde n'est pas d'accord. Bruno Le Maire, par exemple, est lui favorable à ce que des militaires français interviennent sur le sol syrien pour combattre Daesh. Il a d'ailleurs prévu de s'exprimer à 15h pour exposer sa position à lui. Et puis il y a aussi celle de François Fillon, l'ancien Premier ministre, qui parlera lui à 15h30 dans son bureau. De son côté, il défend l'idée d'une intervention au sol, d'abord des pays de la région et dans un second temps, si besoin, une intervention française. Et puis il y a enfin les pro-Bachar, même s'ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, ces députés favorables à un dialogue avec le président syrien. C'est le cas de Jacques Millard.
C'est pas qu'on aide Bachar, c'est qu'on le laisse faire son travail. C'est tout. Moi, je suis pas un avocat de Bachar. Je dis simplement qu'il a du sang sur les mains, j'en conviens, mais il y a pire. Donc, il y a un moment, on fait de la réelle politique et on cesse de jouer les apprentis sorciers en Syrie.
Pas de position commune, donc, malgré les appels au rassemblement. Le week-end dernier encore, au Touquet, Nicolas Sarkozy plaidait pour un programme commun à droite en 2017. Ce que l'on constate avec cette question syrienne, c'est qu'on en est loin.
Et vous, dites-nous au 3210 ce que vous en pensez, si vous croyez qu'il faudrait envoyer ou pas des troupes au sol. 32-10.
Le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq sera chauffé à blanc et pas pour du football ou pour un autre sport. Les supporters retrouvent ce soir l'équipe de France de basket qui joue dans ce stade face à la Lettonie. Une place en demi-finale des championnats d'Europe. Incroyable, 26 000 spectateurs sont attendus comme dimanche. C'est du jamais vu en Europe et les Bleus évidemment reconnaissent qu'ils sont portés par ce public, Nicolas Georgerot.
Oui, tous les jours, ces scènes identiques aux abords de l'hôtel de l'équipe de France. L'ailier Nicolas Batum, comme les autres, prend du temps pour les supporters et c'est tout à fait normal, dit-il.
C'est dur de passer 4-5 minutes avec eux, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est important pour nous aussi de communier avec eux parce qu'on a besoin de public. Mais c'est important, je pense, les deux parties.
Le public adhère, selon l'entraîneur Vincent Collet, parce qu'il voit les joueurs batailler sur le terrain, maillot bleu sur le dos, sans retenue, sans calcul.
Les Français ont besoin de ça, quoi. Moi, je sais que j'ai des copains qui sont pas forcément basketteurs et ce qu'ils ressentent avec cette équipe-là, c'est ça. C'est le fait que les gars mouillent le le maillot pour l'équipe de France. Quoi. Donc les gens sont sensibles à ça.
Dans la salle, noyée au milieu des 26 000 personnes, Julien et Sylvain partagent ce point de vue.
Ce sont des gens très humbles et c'est des gens comme nous, quoi. Malgré leur statut de joueur star international.
On se dit que les Français ont réussi aux États-Unis et c'est peut-être un peu ça qui nous fait rêver.
Des supporters qui s'identifient et peut-être des licenciés supplémentaires pour la Fédération française demain. Leur nombre a déjà grimpé de 25% en 4 ans.
Ouais, c'est tellement délirant, merci Nicolas Georgerot, que même les maillots bleus deviennent une denrée rare. Adidas en a vendu 2 fois plus que lors de la Coupe du Monde l'an dernier en Espagne. Si vous êtes supporter, appelez-nous 32-10. L'enfant de Malmö joue ce soir face au club qui l'a formé. Zlatan Ibrahimovic lancera l'attaque du PSG pour ce premier match de la Ligue des Champions. Rencontre à vivre sur RTL en fil rouge à partir de 20h45.
Bon, finalement, Louis, c'est moins pire que prévu.
Sur certaines régions, oui. Et je voulais donner tout de suite effectivement le nord de la Bretagne, la Normandie, la Picardie, l'Île-de-France. Eh bien, cet après-midi, on va rester dans une toute petite tranche là, avec un peu plus d'éclaircie. Au nord, d'ailleurs, dans le Nord-Pas-de-Calais, on aura de la pluie, c'est déjà le cas. Et au sud, on en aura également, principalement de la façade atlantique, au Pays de la Loire, région centre, Champagne-Ardenne, ou encore Bourgogne et toutes les régions du nord-est. Et puis plus au sud encore, entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Là, on aura une meilleure luminosité, sauf dans le Languedoc-Roussillon, on aura également quelques nuages. Tout cela sera balayé par des vents forts, jusqu'à 60 km/h dans les terres, 80 sur le littoral de la Manche, un peu de fraîcheur. Dans la moitié nord, 17 à 19 degrés seulement, 21 à 25 dans le sud et 26 à 29 en Corse. Là-bas, c'est toujours l'été.
D'accord. Alors, on se prépare psychologiquement parce que la pire journée de la semaine, c'est pour demain.
C'est demain. La carte est explicite. C'est très nuageux, pluvieux, quasiment toute la journée. Des pluies soutenues, parfois accompagnées d'orages dans toutes les régions. Des pluies qui seront encore un petit peu plus fortes du Languedoc à la vallée du Rhône ou encore au nord-est. Pas sûr qu'on aille à l'épisode 7, mais en tout cas, la situation est à surveiller. Puis le vent, 100 à 120 km/h sur le littoral, en montagne et 80 km/h dans l'intérieur des terres. Donc vraiment une sale journée avec des températures malgré tout qui remonteront autour de 20 degrés dans la moitié nord et parfois jusqu'à 26 ou 29 degrés dans le sud. La bonne nouvelle, c'est qu'ensuite ça va lentement mais sûrement s'améliorer jusqu'au week-end. Jeudi, encore quelques averses en atténuation. Vendredi, les éclaircies finiront par l'emporter avec de moins en moins d'averses. Samedi, peut-être quelques averses dans le nord-est mais globalement un temps plus sec. Et dimanche, c'est l'apothéose avec une journée agréable, ensoleillée, de la douceur, pour ne pas dire de la chaleur dans le sud. Ça durera encore lundi, puis après, hop, c'est reparti pour une nouvelle perturbation.
Enfin, ça va quand même changer du week-end dernier.
Exactement, bon. Puisque là, normalement, l'embellie, c'est pour le week-end.
Merci.
Dans un instant, l'invité d'RTL Midi, le vice-président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Hein, et on va se demander avec lui si, avec l'enseignement moral et civique introduit cette année, on n'a pas tendance parfois à marcher sur la tête. À tout de suite.